Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, la plume est à vous. Nous nous retrouvons donc désormais, pour notre plus grand plaisir, dans ce nouveau format tous les dimanches de 21h à 21h30. Que vous soyez auteur confirmé ou occasionnel, n'hésitez pas à nous transmettre vos textes à l'adresse suivante plume@bretagne5.fr en y joignant vos coordonnées ainsi qu'une courte biographie. Des textes ce soir, tous deux extraits d'un recueil dû à la plume experte et particulièrement sensible de Catherine Kambelek, recueil intitulé « Ma tasse de thé et autres petits repos ». Catherine Kambelek écrit principalement de la littérature jeunesse, albums à texte, romans illustrés, récits historiques ou encore contes philosophiques pour enfants. Ce soir, et en cet automne qui invite à plonger au cœur de nos souvenirs, laissons ce premier texte, intitulé « La veillée d'Émilie », dévider au coin de l'âtre et au son du piano le fil d'un bonheur apaisé, mêlé de nostalgie, avec en contrepoint musical les craquements du feu, tel un saphir sur un vieux vinyle. Ce soir-là, Émilie se repose devant le Cantou. Le Cantou, dans ma région, c'est une grande cheminée de pierre. Au centre, l'âtre où le feu rayonne. De chaque côté, des bancs de pierre où, par grand froid, on peut s'asseoir, se réchauffer lorsque le feu tombe. Le Cantou devient coin de repos, de détente, ou de conversation, de chaleur bienfaisante. Bien sûr, chez Émilie, il y a longtemps que le chauffage central s'est cru autorisé à usurper le rôle du Cantou. Mais il n'a jamais eu l'âme du feu. Alors, ses enfants allument encore les bûches dans l'âtre pour le plaisir des yeux et du cœur. Émilie n'est pas assise sur le banc de pierre. À son âge, elle n'y serait pas à l'aise. Elle est donc confortablement installée dans son fauteuil de paille. Son gros chignon blanc lui sert de coussinet, la tête appuyant sur le dossier du siège. Des petites rides creusent à peine des sillons sur son visage, séparées les unes des autres par une peau bien lisse, une peau calme, une peau douce. Émilie sent la chaleur généreusement dispensée par le feu pénétrer sa chair, ses os, calmer les douleurs brûlantes qui la font souffrir depuis tant d'années. Elle contemple les flammes. Elle est bien. Elle est tranquille. Elle se sent sereine. Émilie se souvient. Il y a 60, 65 ans peut-être. Elle était assise, ici même, sur cette grosse dalle qui surélève le foyer, écoutant sa grand-mère conter des histoires. Elle avait tant de récits, cette grand-mère, à raconter. L'hiver, c'était là, sur la marche du Cantou. L'été, c'était dehors, sur le perron. Là aussi, et il y avait un banc taillé dans le roc solide. Il existe toujours en haut du grand escalier de belles pierres blanches du Lot. Au-dessus du perron, la pergola accueille une vigne qu'elle a toujours connue. Cette vigne qui, taillée inlassablement chaque année, continue de donner ses belles grappes en septembre. L'été, le soleil traverse les feuilles et dépose des taches de lumière pâle sur l'ombre rafraîchissante de la pergola. Lors des soirées chaudes, sous ce havre de verdure, sa grand-mère la berçait de récits. Et ce soir, elle se laisse entraîner par ses rêves passés. Elle n'entend même pas ses enfants qui, tout doucement, viennent s'asseoir près d'elle. Sa fille, son gendre, sa petite fille, Amy, qui passe en déposant un baiser léger sur son front. Emily caresse le bras de la jeune fille comme pour dire « Tu es mignonne, ma petite. » Tout le monde au village appelle sa petite fille Amy pour la différencier d'Emily puisque elle porte toutes les deux le même prénom. En cette fin de soirée, Emily entend le ronronnement de la voix de sa fille et de son gendre qui bavarde, qui raconte les nouvelles. Soudain, elle entend « L'Auguste va revenir » et une sorte d'écho résonne dans la tête de la vieille dame. « L'Auguste va revenir, l'Auguste va revenir. » Oh, elle le sait, elle a reçu une lettre dans la semaine. À ce moment, Émilie remonte les années, loin, loin en arrière. Elle repart en Picardie, là-haut, dans le nord de la France. C'était il y a longtemps. Pour autant qu'elle se souvienne, c'était tout de suite après la Grande Guerre. Des amis de ses parents lui avaient obtenu une place de servante dans une forge de l'Oise. Elle avait pris le train, traversé la France, pour travailler au service des maîtres de la forge, avec, pour tout bagage, ses 20 ans et sa beauté. Parmi les 7 ouvriers de la forge, l'un d'entre eux était allemand et prisonnier de guerre. Comme main prisonnier, il avait travaillé dans les fermes ou dans de petites entreprises du Nord. Après l'armistice, Franz n'avait pas rejoint le pays. Il était resté chez le maître forgeron, enseignant l'allemand à la petite fille de la maison. De son côté, l'enfant lui faisait répéter sans pitié pour son accent des phrases entières dans un français quasi académique. C'est ainsi qu'il était devenu ouvrier à la Grande Forge, véritable petit atelier de fonderie et de carrosserie où se fabriquaient entre autres de magnifiques petites automobiles qui ensuite prenaient place sur les superbes manèges des foires du Nord. Lorsqu'Emily était arrivée à la forge, un beau soir de juin, fraîche comme un bouquet de lumière dorée, Franz était tombé éperdument amoureux de la jeune fille. Ils avaient vécu ainsi des années, paisiblement, la petite paysanne du Lot et lui, l'ouvrier allemand. Mais était arrivé le jour où Émilie avait annoncé qu'elle attendait un enfant. Franz s'était écrié « Ah, là, tu ne peux plus refuser de m'épouser !» Mais Émilie s'était obstinée. Non, non, c'était impossible. Impossible. Ses deux frères étaient partis au front combattre l'ennemi. L'un d'entre eux n'était pas revenu. Dans la famille, on ne disait pas que Charles était mort à la guerre. On disait « Il n'est pas revenu ». Alors, pouvait-elle arriver là-bas, dans le Lot, avec un mari allemand, après tout ce qu'elle avait entendu des uns et des autres sur les envahisseurs pendant les années de guerre? Elle était persuadée que non. C'est ainsi que la charmante servante de la grande forge avait mis son bébé au monde, puis était rentrée dans le Lot, annonçant à tout le monde qu'elle avait adopté un enfant. Personne, jamais, ne lui avait posé de questions. Peu après, un ancien prétendant lui avait demandé de l'épouser. Elle avait accepté. Le parti n'était pas mauvais. Cela faciliterait l'éducation et l'intégration du petit Auguste dans le village. Son mari a donné son nom à l'enfant, ce petit garçon qu'elle avait ramené de là-haut. Auguste a grandi. Les années ont passé. Émilie a aussi eu une fille qui est là ce soir, près d'elle, avec son mari. Et puis, sa petite fille, Amy, est née pour sa plus grande joie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est profilée, Auguste est parti au STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. Le jeune homme ne se sentait pas l'âme paysanne. Les travaux des champs ne lui convenaient guère. Le travail en ville se faisait rare. Il le savait. Les affiches de propagande proposaient du travail dans des conditions alléchantes. Certains y ont cru, comme Auguste. Les anciens ont bien essayé de dissuader le garçon, mais il était déterminé. Certes, Émilie avait eu le cœur pincé de voir son fils partir si loin. Les années passant, Auguste n'est pas rentré en France. Il a fait sa vie en Allemagne. Secrètement, Émilie en était satisfaite. Elle trouvait que c'était un juste retour des choses. Elle avait toujours eu une correspondance régulière avec Auguste. Elle donnait des nouvelles aux uns et aux autres. Depuis que son mari était mort, elle attendait le retour de ce fils, dont elle n'avait jamais dévoilé la paternité à qui que ce fût. Elle savait qu'Auguste allait revenir. Une maladie sans pitié venait d'avoir raison de la santé de sa femme, une solide Allemande, pourtant robuste au travail, d'après ce que disaient les lettres. La pauvre femme avait toujours désespéré de donner naissance à un enfant. C'était du moins ce qu'Émilie avait cru comprendre. Les quelques photos que la vieille dame possédait et gardait avec grand soin laissaient paraître un couple heureux, complice. Auguste avait été heureux, elle le savait. Cependant, elle ne pouvait déterminer une chose. Était-ce l'absence d'enfant ou le désir de revoir sa mère qui le décidait à rentrer? Qu'importe, serait bientôt près d'elle. Alors Émilie est vraiment heureuse ce soir. L'Auguste va revenir, l'Auguste, comme on dit au pays. Elle trouve que la vie est bien faite, ouais, que la boucle est bien bouclée. Et tout doucement, elle glisse dans le sommeil, en sachant qu'Auguste aura beaucoup, beaucoup de choses à lui raconter après tant d'années de séparation. De son côté, osera-t-elle aller jusqu'à la révélation?
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime. À Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. La, 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 la. À Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Göttingen, une chanson que Barbara composa à l'été 1964 alors qu'elle se produisait en cette ville de Göttingen où un admirateur allemand, Günther Klein, rencontré à Paris au célèbre cabaret L'Écluse où Barbara se produisait en ce début de carrière, Eh bien, il avait réussi à la convaincre de se produire pour la première fois en Allemagne. Alors, chanson affichant aujourd'hui une forte valeur symbolique de réconciliation franco-allemande, d'autant que les dernières strophes furent évoquées en 2003 par le chancelier Helmut Kohl lors de la commémoration du traité d'amitié franco-allemande de 1963. Ô fête que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Chanson d'amour à sa création, le temps et l'histoire lui auront conféré à ce jour un sens plus profond et bien plus politique. D'amour, il en est à nouveau question dans cet autre texte que nous propose à présent Catherine Kambelek, le mystérieux sourire de la vieille Marie. On l'avait retrouvée morte un matin dans la vieille chaumière de terre battue là-haut, au bout de la lande, balayée par le vent. Un vent qui courait et couchait bruyères et ajoncs en hurlant avant de se précipiter dans l'abîme de la falaise. Les vieilles du village d'en bas ne l'avaient point aperçue au marché ce matin-là. Elles étaient donc montées à la lande pour connaître la cause de cette absence insolite. Marie ne manquait jamais le marché où elle n'achetait plus rien depuis longtemps. Elle n'avait plus besoin de rien. Marie. Ici, elle était bien. Elle était seule. Elle pouvait vivre avec les souvenirs de ceux qu'elle avait aimés et aimait toujours dans la solitude de la lande, bruissant de vent et de plantes, complices vibrantes. Elle était venue s'installer là, dans la chaumière de son enfance, après la mort de son Léon. Lorsque les vieilles étaient arrivées, elles avaient trouvé Marie allongée dans son lit clos, sous l'édredon de plumes, dans ses plus beaux vêtements, avec sa coiffe de fête. Elle était belle, Marie, ce matin, avec ce sourire rayonnant qui intriguait les femmes, se regardant d'un air interrogateur sur ce ravissement serein au coin des lèvres. Angèle, un peu en retrait, au pied du lit, l'observait avec une satisfaction qui semblait lui répondre. Doyennes et douairières, réunies pour l'occasion, l'avaient remarqué et ne s'en interrogeaient que davantage. Avant de monter là, à la lande, comme elle disait, car c'est Marie qui avait baptisé ce lieu petite fille, elle vivait avec son Léon dans la clairière à la sortie de la forêt. À la retraite de Léon, il s'était retiré après le Breuil sur un bout de terre, dans une petite maison entourée d'un jardinet qui débordait de toutes sortes de fruits et de légumes. Ah, il s'y connaissait, Léon, dans les graines et les plants. Le soir, au beau jour, ils s'asseyaient tous deux sur le banc de pierre devant la maison et ils regardaient les végétaux pousser. Il leur semblait les voir croître jour après jour, parfois même heure après heure. Alors, dans un élan de tendresse, Léon passait son bras autour des épaules de Marie et tous deux restaient ainsi, en silence, de longs moments. Au début du printemps, Léon pouvait laisser tomber « Cette année, il ne faut pas que j'oublie de mettre du poivre noir avec les semis de carottes pour les protéger de la maladie. » Marie acquiesçait, elle acquiesçait toujours. Marie, à ce que disait son Léon. Puis elle ajoutait, ne faudra pas attendre plus de 2 feuilles pour repiquer les tomates. Il ne faudra pas oublier de mettre du basilic entre chaque pied pour éviter le mildiou. Ainsi, papotait le couple. Si c'était l'hiver, ils se réfugiaient auprès de la cheminée, les yeux perdus dans les flammes dansantes. Sans doute repassaient-ils le film de leur vie, car, sans se concerter, de temps en temps, l'un ou l'autre lâchait une petite bribe de sa pensée. Hein ? Tu te souviens ? Lorsqu'Amélia a fait ses premiers pas ? Marie souriait. Elle n'avait pas besoin de répondre. Bien sûr qu'elle se souvenait. C'était à l'époque de l'usine. Elle était ouvrière à la ville, avec Léon. Tous les deux, dans la même manufacture de lames de rasoir. Il en avait enroulé du ruban d'acier sur les bobines et placé sur les presses à estamper. Marie, quant à elle, en avait enveloppé des lames dans du papier paraffiné. 30 ans. 30 ans s'étaient écoulés depuis les premiers pas d'Amélia, leur premier enfant. Ces premiers pas avaient marqué leur mémoire. Petite, Amélia avait stagné des semaines sur 1 pas et demi. La petite, les bras écartés, éclat de rire aux yeux, se précipitait vers sa mère ou son père, et lorsqu'elle amorçait le 2e pas, s'étalait de tout son long sur le tapis de la salle à manger. Ah, elle était belle, leur petite maison de ville, ça, oui. Ah, ils étaient fiers, Marie et Léon. Pas de dettes, des enfants gentils, bien élevés, une fille, un garçon. Ils réussissaient tout, Marie et Léon. Les mauvaises langues disaient « C'est pas juste. Et ils n'ont jamais d'ennui, Léon et Marie. » Eux trouvaient ça tout à fait naturel. Ils se levaient le matin en faisant tout d'une façon droite et simple. Simple. Tout était simple avec Marie et Léon. Leur cœur, leur manière d'agir. « Ah, quand même, disaient les voisins, ils n'ont pas d'ambition, Léon et Marie. » Ah ouais, Marie passe encore, mais Léon, c'est vrai, il pourrait devenir contremaître. Oh, tu sais, on n'échangera pas. Non, mais ils ne feront pas fortune, ces deux-là. De fait, ils n'avaient pas fait fortune. Leur seul luxe avait été cette petite maison de ville où leurs enfants avaient grandi. Ils l'avaient quittée à leur retraite pour jardiner dans la clairière. Ah, vraiment, ils avaient bien fait de se rencontrer tous les deux. Quelle réussite que leur vie! Cela, tout le monde le constatait avec plus ou moins d'envie ou de jalousie. Marie était la plus belle fille du village. Ah, plus d'un avait tourné autour d'elle. Mais elle était tellement belle qu'aucun n'osait s'aventurer à se déclarer. Marie avait tant à faire à la métairie qu'elle ne voyait rien. Et puis un jour, pour les moissons, un journalier s'était présenté. Il en fallait du monde à cette époque pour les récoltes. Lorsque Léon était rentré dans la cour de la ferme, il avait avancé droit vers Marie, avec ses yeux clairs, plantés dans ceux de la jeune fille qui avait su les tenir à la hauteur de son cœur. Dès ce moment-là, ils avaient simplement su qu'ils ne se quitteraient plus. Léon avait d'abord fait le travail demandé, reçu ses gages, puis elle avait adressé sa demande à Marie qui, pour toute réponse, avait posé tout doucement ses 2 paumes sur le visage du jeune homme. Elle avait longuement souri en disant « Je le savais ». elle lui avait pris la main. Ils avaient traversé la cour en direction du bâtiment d'habitation. En entrant dans la pénombre de la salle, il avait semblé au père que leur visage avait été une lumière à ce moment-là. Bien sûr que le père avait donné sa bénédiction pour ce mariage. Que pouvait-il faire d'autre ? Le mariage célébré, tout le village attendait les mariés dehors, à la sortie de la mairie. Ils étaient arrivés en haut des marches, illuminés par leur bonheur. Marie avait déposé un baiser sur les lèvres de Léon et lui avait souri, longuement. Tout près d'eux, Angèle, la sœur de Léon, avait fixé ce sourire dans sa mémoire. Tant il était rayonnant, elle savait qu'elle ne l'oublierait jamais. Ce sourire, elle le retrouvait ce matin-là, sur les lèvres de la vieille Marie. Angèle, seule, savait qu'elle avait été le rêve de Marie lorsque celle-ci avait glissé dans son ultime sommeil. Les doyennes accompagnèrent Marie à sa dernière demeure sans avoir de réponse à leur interrogation. Comment pouvait-on quitter ce monde avec un aussi joli sourire? C'est sur ce rêve d'amour, le nocturne numéro 3 de Liszt, que nous quittons le sourire apaisé de la vieille Marie. Et nous avons bien, bien de la chance et bien du bonheur, nous, auditeurs et lecteurs, d'être admis dans cette belle confidence. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 21h dans La Plume est à vous, avec deux nouveaux textes de Catherine Kambelek pour conclure notre exploration de son recueil, Ma tasse de thé et autres petits repos. Je n'oublie pas, bien sûr, l'ami Frédéric Guyon qui, aux manettes, assure avec brio la mise en onde de cette émission. Passez une très belle semaine d'automne, à dimanche prochain, et d'ici là, selon la formule consacrée, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.